Chapitre 10 La mort libératrice. Pas encore vieux, il avait vu, car peu d'hommes savent voir, tant de lâcheté, tant d'infamie, dans la société des grands et parmi le peuple, qu'il finit par douter de tout, sauf de Dieu. Il comprit que les hommes ne valaient pas qu'un de leurs semblables sacrifia pour leur dignité et leur indépendance, sa tranquillité, son égoïsme. Et il exprime à peu près les pensées de Tolstoï sur l'inutilité de la lutte et la non-résistance au mal. « Je ne peux, dit-il, supporter les hommes qui croient qu'il n'est pas possible de produire le bien si on ne commence par le mal, c'est-à-dire par le meurtre. Les temps changent, de nouveaux événements surviennent, les désirs se transforment, les hommes se lassent, et, au bout du compte, il se produit toujours ce qu'on n'avait pas prévu. » Malgré une vie remplie de labeurs et de triomphes, sa vieillesse fut triste. Il survivait seul à son siècle. Bramante, Sangallo, Raphaël, tous ses compagnons, tous ses rivaux, tous ses ennemis avaient disparu de la terre, et tant de rois, de princes, de papes qu'il avait connus, estimaient quelquefois. Il s'était retiré à Rome, sur la ferme de Trajan, au Macel de Corvi, dans une maison agrémentée d'un petit jardin. Un valet, une servante suffisaient aux soins de son ménage, mais très mal, car ce n'est pas d'aujourd'hui que les maîtres ont à se plaindre des négligences coupables de leurs serviteurs. Vasard y raconte que Michel-Ange changeait souvent ses domestiques et s'en plaignait toujours. Dans sa chambre, les araignées dévidaient à leur aise leurs petits fuseaux. Au milieu de l'escalier, il avait peint la mort, portant un cercueil sur son épaule. Très sobre, il se contentait d'un morceau de pain et d'un verre de vin pour pouvoir plus librement se consacrer à ses travaux. Depuis le jugement dernier, il s'était mis à boire un peu, le soir, quand il avait terminé sa besogne. Bien que riche, il vivait comme un pauvre. Rarement, un ami s'asseyait à sa table. Il n'acceptait aucune invitation, aucun présent. À cause de sa sobriété, il fut toujours très éveillé et la privation du sommeil ne le gênait guère. Quand il ne pouvait dormir, la nuit, il se relevait pour travailler avec le ciseau. Il s'était fabriqué un casque de carton et il portait au milieu, sur la tête, une chandelle allumée qui, de cette façon, sans lui embarrasser les mains, éclairait son travail. Il adorait la nuit, le silence, le grand espace de la solitude où il se sentait plus seul. Ô nuit, ô doux temps, où tout effort finalement atteint la paix, celui qui t'aime voit bien et comprend bien. Tu tranches de tes ciseaux dans l'ombre reposante toute pensée fatiguée. Souvent, tu me soulèves d'ici-bas, en rêve, jusqu'en haut, où j'espère aller par mon âme. Ô nuit, ombre de la mort, par qui s'abolit toute misère, tu es le bon remède des plus affligés, tu rends la santé à notre chair malade, tu laves les boues de la haine et du dégoût. » Une nuit, Vasari s'en vut rendre visite au rêveur solitaire. Il le trouva en méditation au pied de sa Pietà. Cependant, pour ouvrir la porte, il s'était levé, un chandelier à la main. Vasari, manifestant le désir de contempler la sculpture, Michel-Ange laissa sa lumière tomber, s'éteindre. Et comme Urbino allait en chercher une autre, le maître se tourna vers Vasari en disant « Je suis si vieux que la mort me tire souvent par les chausses. Un jour, mon corps tombera comme ce flambeau et, comme lui, s'éteindra la lumière de ma vie. » La pensée de la mort le consolait de vieillir dans ce monde faux, l'exhortait à attendre patiemment les délices du ciel. Romain Rolland a remarqué que Michel-Ange avait toujours prêté peu d'attention à la nature, malgré les années qu'il passa hors des villes, à Carrare ou à Seravezza. Le paysage tient une place infime dans son œuvre. Il se réduit à quelques indications abrégées, presque schématiques, dans les fresques de la Sixtine. En cela, il est à part de ses contemporains, de Raphaël, du Titien, du Pérugin, de Francia, de Léonard de Vinci. À mesure que l'âge le courba vers la terre, il eut pour elle plus d'attention et de goût. Il observa dans l'espace la fantaisie changeante des nuages, il écouta le souffle du vent dans les bois que l'automne colore de ses doigts d'or et de pourpre, il se recueillit devant la splendeur des vignes fanées sous le soleil, devant la douceur argentée des oliviers noueux. Les charmes de la campagne lui inspirèrent des poésies tendres, imprégnées de mélancolie et d'amour. Son cœur reverdit, comme la feuille au printemps, et dans les sources claires, il retrempa les forces de son corps et de son esprit. C'est un nouveau plaisir, toujours plus estimé, de voir les chèvres hardies grimper sur un rocher, paissant tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre cime. Il chantait avec innocence et avec ferveur, comme il priait. Parmi le silence de sa solitude, dans la fièvre de ses recueillements, il avait parfois des hallucinations. Je trouve dans Romain Rolland l'étrange récit de Fra Benedetto, d'après Villari, cité par Taude, récit qui montre Michel-Ange en extase la nuit devant les étoiles. Je crois, si je ne me trompe, que c'était en automne, une nuit, en plein air, dans le jardin de sa maison, il priait et levait les yeux au ciel. Soudain, il vit un météore merveilleux, un signe triangulaire avec trois rayons. L'un qui s'en allait vers l'est, brillant et lisse comme une lame d'épée polie, et à la fin, il se recourbait en crochet. L'autre, couleur de rubis, bleu-rouge, qui s'étendait sur Rome. Et l'autre, couleur de feu, fourchu et de telle longueur qu'il atteignait jusqu'à Florence. Quand Michel-Ange eut aperçu ce signe divin, il courut dans sa maison chercher une feuille, une plume et de la couleur, il dessina l'apparition. Quand il eut achevé, le signe disparut. L'ardeur de sa foi ne l'aveuglait pas sur la vertu morale des prêtres de son temps. Dans le domaine de la religion, comme dans celui de l'art, il entendait se suffire à lui-même, ayant uniquement confiance dans la sincérité de sa prière, et se satisfaisant de la conviction qu'il avait de vivre avec Christ. Enfin, il s'enferma dans sa maison comme la moelle dans l'écorce de l'arbre, ses dents branlées comme les touches d'un instrument de musique. Ses oreilles ne cessaient de bourdonner. Dans l'une, une araignée tissait sa toile, dans l'autre, un grillon chantait toute la nuit. Son catarrhe ne le laissait pas dormir. Pauvre vieux écrasé, il sera bientôt un être inerte et déchiré si la mort ne va pas à son secours. Son élève et ami, Vasari, le visitait régulièrement. Un jour que Michel-Ange ne s'attendait pas à sa visite, il lui témoigna autant d'émotion qu'en éprouverait un père devant un fils qu'il aurait cru ne plus revoir. Il lui jeta les bras autour du cou, l'embrassa follement à plusieurs reprises, en pleurant de plaisir. La mort, qu'il appelait avec tant de ferveur, annonça enfin par divers accidents sa venue prochaine. Au mois d'août 1561, après avoir, les pieds nus, dessiné pendant 3 heures de suite, il fut pris de douleur et tomba en convulsion. Son serviteur Antonio le trouva sans connaissance. Leonardo, qui guettait toujours le gros héritage de son oncle, essaya de s'en approcher avec de jolies manières de bon apôtre. L'oncle le rabroua aussitôt, mais sans se fâcher, en se moquant de lui. « Puisque tu es riche, j'en suis enchanté, lui dit-il, je donnerai tout mon bien à Rome. » Leonardo, à ces paroles, s'alarma, vous pensez bien. De rechef, il protesta de sa grande affection pour l'oncle, dont la vie lui était précieuse et qu'il voulait à tout prix soigner lui-même. Michel-Ange, cette fois, lui répondit sur un ton de terrible colère. « Tu écoutes un tas de gredins qui, ne pouvant pas me voler, te poussent vers moi. Tu es si bête que tu as foi en tout ce qu'ils te racontent à propos de mes affaires. Tu t'imagines que je souffre sous le rapport du service. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été plus fidèlement servi ni mieux traité à tous égards. Donc, pense à toi-même et reste chez toi. Je sais me défendre en cas de besoin et je ne suis pas un enfant. Porte-toi bien. » Autour de lui, cependant, on conçut des craintes. Vasari engagea le duc Côme à demander au pape de faire inventorier et de mettre en sûreté les cartons, les modèles, les dessins, les projets du glorieux artiste. Il en avait déjà brûlé une partie. On s'attacha, sans qu'il pût s'en douter, à sauver au moins ce qui était relatif à la sacristie, à la façade et à la bibliothèque de Saint-Laurent, ainsi que les plans préparés pour les constructions de Saint-Pierre. Par habitude, par nécessité de distraction, il continuait à travailler. Le 12 février 1563, il fut pris de fièvre. Tibère Calgagni, informé de son mal, accourut chez lui. Michel-Ange était allé, sous la pluie, se promener dans la campagne. À son retour, Calgagni le gronda tendrement. « Que voulez-vous » répondit-il. « Je suis malade, je ne puis plus trouver du repos dans ma maison. » Il fit prier Daniel de Voltaire de se rendre auprès de lui. Daniel manda le médecin Federigo Donati. Et le 15 février, sentant sa fin prochaine, il fit prier Leonardo de venir en hâte. La fièvre, en effet, faisait de rapides progrès. « Je viens de le laisser », écrivit Daniel de Voltaire à Vasari, un peu après 8 heures, en pleine possession de ses facultés, paisible mais prostré. Vers 3 heures de l'après-midi, il voulut secouer sa torpeur et il essaya, selon son habitude, quand le temps est beau, de monter à cheval. Hélas, le temps froid, la faiblesse de sa tête et de ses jambes lui interdirent cet effort. Il rebroussa donc chemin vers sa maison. Il s'assit dans un fauteuil qu'il préfère de beaucoup à son lit. Cavalière y le veillait. Le surlendemain, en présence de son médecin Donati, de Daniel de Voltaire et de quelques autres amis, il dicta ce testament. « Je laisse mon âme à Dieu, mon corps à la terre et mes biens à mes plus proches parents. » Et il s'éteignit doucement, âgé de 89 ans, moins quelques mois. C'était un vendredi, vers 5 heures du soir. Le pape fit porter son corps à l'église de Santo Apostolo. Il aurait voulu lui élever un tombeau à Saint-Pierre. Mais Michel-Ange avait demandé, par d'instantes supplications, qu'on transportât ses restes à Florence. Ses amis redoutèrent que le peuple de Rome ne s'opposât formellement à cette translation. C'est pourquoi Leonardo fut obligé d'enfermer le corps dans une balle de laine et de le faire sortir de la ville en cachette. À Florence, dès l'arrivée du corps, les peintres, les sculpteurs, les architectes se rassemblèrent sans bruit autour de l'église de San Piero Maggiore. Ils recouvrirent le cercueil et le brancard d'un drap de velours brodé d'or. Vers 1 heure, dans la nuit, les plus âgés et les plus distingués prirent des torches, tandis que les jeunes gens s'emparèrent du brancard et, fiers de leur service, portèrent le corps de Michel-Ange. Cependant, la nouvelle de cette cérémonie avait passé de bouche en bouche. Une foule croissante envahit l'église et les académiciens eurent, au milieu de la confusion, beaucoup de peine à parvenir jusqu'à la chapelle. Les obsèques solennelles ne furent célébrées qu'en juillet. L'illustre Varchi prononça l'oraison funèbre. Le corps fut déposé dans Santa Croce, à la place où il se trouve encore, et le monument, dessiné par Vasari, fut exécuté par Battista Lorenzo. Vasari nous a conservé le portrait de Michel-Ange. La tête ronde, le front carré et spacieux, les tempes saillantes, le nez écrasé, par le coup de poing de Torrigiani, les yeux plus petits que grands, d'un brun assez foncé et tacheté de points jaunes et bleus, le sourcil peu garni, les lèvres minces, le menton bien proportionné, la barbe peu épaisse et se partageant en 2 touffes égales vers le milieu du menton. Il était de taille moyenne, large d'épaules, mince et bien proportionné, d'un tempérament sec et nerveux, d'une complexion très saine. Il n'eut que 2 maladies dans le cours de sa longue vie. Il se traitait avec dureté jusqu'à porter dans sa vieillesse des guêtres de peau de chien sur ses jambes nues. Inégal d'humeur et d'entrain dans son travail, il était pourtant d'une activité prodigieuse, méditant toujours, préparant ses ouvrages par la pensée pendant des mois, sans toucher une brosse ni un ciseau. Puis, lorsqu'il avait clairement arrangé ses visions dans sa tête et minutieusement composé soit ses plans, soit ses dessins, il se jetait dans son œuvre avec un élan fougueux, la passion de toutes ses forces, de toute sa conscience et de toute sa volonté. Parfois, désespérant d'atteindre au but très haut qu'il assignait à ses efforts, il abandonnait cette œuvre avec colère, avec angoisse. Il avait, dit Vasari, une imagination si sublime que, souvent, ses mains ne pouvaient exprimer ses grandes et terribles pensées. D'ordinaire, il jetait précipitamment sa première idée sur le papier, puis il reprenait à l'aise, avec une patience assidue, chacune des parties, ensuite l'ensemble. Il lui arrivait de dessiner 10, 12 fois la même tête avant d'en être satisfait. Certaines de ses études sont dessinées d'une main tellement sûre qu'il a pu s'en servir pour modeler, comme le prouvent les repères qu'on y remarque. En général, il établissait de petites maquettes en cire dont plusieurs ont été conservées. N'ayant pas les communes hésitations ou scrupules de l'ouvrier, qui ne se connaît point d'intelligence dans les mains, il attaquait le marbre directement, sans prendre des mesures très exactes, et cela lui causa plus d'un mécompte. Il dormait peu. La nuit, il se levait fréquemment pour travailler. Il pensait toujours à son art comme un saint à Dieu. L'époque de la Renaissance italienne, qui comprend, avec le dernier quart du XVe siècle, les 40 premières années du XVIe, dédaigne dans le domaine de l'art, le paysage, les détails de la vie familière. Michel-Ange déclara qu'il faut les laisser comme amusement et dédommagement aux talents moindres et que le véritable objet de l'art est le corps humain. Le point important de l'art du dessin, déclare encore Cellini, c'est de bien faire un homme et une femme nue. Il a fallu pourtant un terrain favorable à la culture de l'intelligence, à la formation si heureuse de tant d'œuvres d'art. Tandis que, dans toute l'Europe, le régime reste encore féodal, on voit en Italie, par les institutions, les mœurs, la langue, une civilisation rapide se dégager. La diplomatie tente à y remplacer la force. Les souverains italiens, dit Machiavel, croient que le mérite d'un prince est de savoir apprécier dans les écrits une réplique piquante, rédiger une belle lettre, montrer dans ses paroles de la vivacité et de la finesse, tisser une fronde, s'orner de pierres précieuses et d'or, dormir et manger avec une plus grande splendeur que les autres et réunir autour de soi toutes sortes de voluptés. Les bourgeois souverains, les maîtres des États, se plaisent à remplir leurs maisons, leurs cours brillantes, de philosophes, d'artistes, de savants, Pic de la Mirandole, Marsile Fincine, Politien, Léonard de Vinci, Pomponius Létus, Machiavel, l'Arioste. Un jour, le pape Léon V donna 500 ducats à un poète, Cialdeo, pour une épigramme qui lui avait plu. Les Italiens de ce temps-là, polissés, éloquents, épris de joie et de beauté, songent surtout à faire de la vie une fête. Ils sont les plus impies des hommes. Ils se moquent de la vraie religion. Il y a un mot qu'ils disent quand ils vont à l'église, « Allons nous conformer à l'erreur populaire ». Le peuple craint plus Saint-Antoine et Saint-Sébastien que le Christ à cause des misères qu'ils envoient. C'est pourquoi, quand on veut empêcher les Italiens d'uriner dans un lieu, on y peint Saint-Antoine avec sa lance de feu. Les moralistes prêchèrent en vain, Brutto, Savonarole, contre ces superstitions, cette sensualité rapide. Du moins, le goût des plaisirs et de la joie physique, répandu jusque parmi le peuple, démontre que la sève animale surabondait à cette époque. Et dans cette surabondance de forces sensuelles, la vie de l'esprit gagnait en désir, en énergie, en facultés délicates de civilisation. Les hommes de ce temps de renouveau sont affamés de vivre, ont envie de parcourir tous les domaines qui s'ouvrent dans la lumière de l'aurore, et de savourer tous les fruits qui reparaissent merveilleux sur la terre aussi aimée que le paradis, et de connaître toutes les ressources de la pensée et de l'âme qui font de la beauté, de la volupté et de la gloire. Ces hommes, élevés dans l'amour des belles idées et des grandes formes, embellissent eux-mêmes par tous les exercices du corps, ont les mains aussi vigoureuses que l'intelligence et la volonté. Ils sont ainsi tout préparés à comprendre la représentation du corps, c'est-à-dire la peinture et la sculpture. Ils sentiront, sans éducation d'atelier, par une sympathie involontaire, les nudités héroïques et les musculatures terribles de Michel-Ange, la santé, la placidité, le regard simple d'une Madone de Raphaël, la vitalité hardie et naturelle d'un bronze de Donatello, l'attitude contournée, étrangement séduisante d'une figure de Vinci, la superbe volonté animale, le mouvement impétueux, la force et la joie athlétique des personnages de Giorgione et du Titien. Les gens du peuple, autant que les princes, les prélats, recherchent avidement, dans leurs maisons, dans leurs églises, dans les rues de leur cité, la parure des radieuses images issues de l'idéal ou de la réalité. Il leur plaisait de retrouver la vie, plus étincelante et plus vive, sur des murailles, à travers des cavalcades, dans des tableaux et des costumes. C'est de ce milieu passionné de vie, violent, jeune, grondant de rêves et d'actions, que poussa le prodigieux Michel-Ange. Du premier jet, il dépassa les artistes de sa race, lesquels étaient si grands. Le caractère est, chez lui, à l'égal du génie. Son existence presque séculaire se présente sans tache. Il fut, de l'ère de la Renaissance, un des plus purs héros, mêlé au drame social et rayonnant le plus d'intelligence et d'âme. Dans ce monde italien, on voit, en même temps que la persistance de la foi antique, l'avènement de la pensée libre. Et, transposant une observation de Taine, on peut dire qu'autour de Laurent de Médicis, comme autour de Périclès, il y avait un petit cénacle de raisonneurs et de philosophes. Michel-Ange, comme plutôt Phidias, y fut admis. Aux deux époques, la tradition et la légende occupaient et dirigeaient en souverain l'imagination et la conduite. Quand l'écho des discours philosophiques venait faire vibrer une âme remplie de formes pittoresques, c'était pour y épurer et agrandir les figures divines. La sagesse ne détruisait pas la religion, elle l'interprétait, elle la ramenait à son fond, au sentiment poétique des forces naturelles. Michel-Ange était toujours occupé par ces hautes questions de la destinée humaine. Il s'inquiétait de la servitude des hommes, ses frères, s'irritait davantage de leur lâcheté dans la dépendance que de leur servilité matérielle. Émanciper l'esprit de chacun de ses semblables, c'est là d'abord la victoire qu'il eût voulu obtenir. Il doutait de la faiblesse, de l'impuissance du peuple à jamais briser ses entraves, et cela créait son tourment le plus profond qui le rejeta peu à peu vers la solitude, dans une sorte de bouderie hargneuse. Pour s'emparer à son gré de l'esprit des bourgeois de Florence, banquiers, marchands, qui croyaient tout savoir et qui écoutaient dans leur résolution les envieux, il eût fallu à Michel-Ange une souplesse et une humilité qu'il ne connut jamais. S'il avait pu soumettre aux visions de son génie les grands, les riches, quelle œuvre plus belle et plus complète, dans la liberté de son effort, il eût encore donné. Sa vie de près d'un siècle fut un combat, une continuelle contradiction. Noble et pauvre, il est élevé dans la maison des Médicis comme un sujet quelconque, comme un serviteur. Aristocrate d'esprit, il avait l'âme libre et fière. Il dut servir des princes, des maîtres de peuple et des maîtres d'église. Et ceux-ci ne doutèrent jamais de leur supériorité sur les misères de ce travailleur. Il était né laid. Il le fut davantage lorsque la jalousie stupide d'un rival l'eut défiguré. Geste symbolique. Ne semble-t-il pas, en effet, qu'alors les arrogants copistes, les manœuvres médiocres et robustes, aient voulu, par la brutalité, arrêter l'homme de génie dans son élan vers la tendresse et la beauté? Toute sa vie cherchant l'amour, dans le monde qu'avec trop de dignité il traversa, il ne le rencontra jamais. Du moins, ce n'est jamais pour lui-même, comme tant de sots et d'inutiles, qu'il fut aimé. Et il resta toujours seul, dans ses désirs les plus légitimes, ainsi que dans son œuvre. Cet artiste, si ardent de jeunesse toujours, demeura prisonnier entre les mains de vieillards. Ceux-ci, ne songeant qu'aux choses de la mort, voyant en leur mausolée superbe d'indestructibles piédestaux de leur grandeur et de leur puissance, demandaient au génie de leurs prisonniers la vie immortelle de son art pour leur figure souveraine. Oui, ils étaient vieux, tous ces maîtres, fâchés qu'après leur mort, les bonnes choses de la terre continuassent d'exister, et ils voulaient tous, jalousement heureux de jouir encore des douceurs du monde, orner leurs derniers jours des richesses de la beauté et des poésies de la gloire. Comment ce cœur, déjà inquiet de Michel-Ange, nourri de projets de mausolées, d'églises, de peintures tristes, n'eût-il pas perdu l'habitude de se détourner des consolations, qu'à de certaines heures au moins, la destinée réserve aux plus humbles d'entre les hommes? Comment ne se fût-il pas complu dans la mélancolie, dans le désespoir? La misérable cariatide qu'il a dans le jugement dernier posée sur Jérémie, est sans conteste son œuvre la plus sombre. Elle a été conçue par lui dans sa plus forte crise de détresse, le jour peut-être où il s'était enfermé pour mourir. Comme Jérémie, il ignore, dans son époque de violence et de désordre, où est Dieu. Il cherche Dieu avec douleur, Dieu, le beau, le juste, l'humain. Et de ne point le trouver, cela fait le tourment de l'artiste et du chrétien qui fuit le monde. Il voudrait Dieu et c'est le diable qui règne ici-bas. Où donc est le renouveau, l'aube de paix et de bonté annoncée par le Christ ? Michel-Ange, par moments, ne croit plus que la sagesse puisse jamais lever dans le cœur des créatures de Dieu, et il s'enfonce dans l'ombre infinie de son rêve pour pleurer sur les choses de la terre ou pour les maudire. Heureusement, il ne fut pas compris de son temps, de ses maîtres vieux. Ceux-ci auraient fait tout effacer de son œuvre. Car la Renaissance est, dans l'art, par Vinci et Michel-Ange, deux prophètes énormément loin en avant de leur âge. Ils en sont la stupeur plus que l'admiration. Michelet.